Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui en Libye pour débuter ces colères du monde avec le chef du gouvernement d'Union nationale, d'Union de transition, Abdelhamid Dbeiba, qui n'entend pas se laisser impressionner par la motion de défiance qui a été votée par la Chambre des représentants. Il appelle ses partisans à manifester demain matin sur la place des Martyrs, au centre de la capitale, donc Tripoli, de telle façon à condamner à la fois la posture des parlementaires libyens et puis également de rappeler, selon lui, la nécessité d'aller jusqu'au bout du mandat qui est le sien, donc de ne pas renoncer, de ne pas démissionner, aller jusqu'à la tenue d'élections libres et équitables. C'est là l'objectif de Dbeiba, qui n'entend pas donc se laisser impressionner. Il en appelle à la rue quand Akila Saleh, le président de la Chambre des représentants, lui exprime sa déception, toujours sur les promesses qui avaient été faites par le gouvernement d'Union nationale, également des questionnements sur les 84 milliards de dollars qui ont été dépensés en 6 mois par les autorités de transition. On se souvient que ça avait été, et c'est toujours un point de litige, cette fameuse question du budget qui n'a pas été votée par les instances parlementaires. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on est dans une vraie partie de bras de fer entre l'Est et l'Ouest, mais c'est vrai que le climat politique s'est détérioré ces derniers jours. Et puis signalons que Khalifa Haftar, celui que l'on surnomme être l'homme fort de l'Est, a annoncé qu'il suspend ses activités militaires, d'aucuns voyant ici une libération donc de son uniforme afin de pouvoir revêtir un costume de civil et se présenter le cas échéant aux élections présidentielles du 24 décembre prochain. Si elles arrivent à se tenir, il faut préciser tout de même que Khalifa Haftar n'a pas fait acte de candidature. Simplement, le fait qu'il suspende ses activités militaires, cela a été lu et interprété comme une mise en condition dans ce qui pourrait devenir, parlons au conditionnel, dans ce qui pourrait devenir une campagne électorale de Khalifa Haftar pour la présidence de la Libye. La Tunisie, la vie politique tunisienne, on commence à y voir plus clair sur le projet du président tunisien Kais Saied avec ces mesures exceptionnelles qui ont été annoncées, qui ont été prises hier. Donc selon un décret présidentiel, il a été décidé de maintenir donc l'ensemble des mesures qui étaient liées à la suspension des activités du Parlement. On sait également que toutes les indemnités et avantages qui étaient accordés aux parlementaires et aux présidents du Parlement, dont Khanouchi du parti Ennahda, et bien tout cela a été supprimé. Il a également été décidé de supprimer l'instance provisoire qui contrôle la constitutionnalité des projets de loi. C'est désormais la République, c'est le palais de Carthage qui va se charger d'élaborer les projets d'amendements relatifs à des réformes politique. Et puis également donc concernant le projet de nommer un chef du gouvernement, celui-ci sera en charge d'exercer le pouvoir exécutif, mais bien évidemment en étroite collaboration et coopération avec le président tunisien, qui signe là une orientation constitutionnelle. On se souvient de toutes les rencontres qu'il y a eu au palais de Carthage ces dernières semaines, une orientation constitutionnelle qui est un régime de type hyper présidentiel. C'est décidément le grand débat en Algérie, celui de la politique des prix pratiquée dans ce pays, avec cette problématique d'une vie extrêmement chère pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'alimenter, avoir l'eau, l'électricité. Il y a aujourd'hui beaucoup de débats qui animent le monde de la presse, ainsi que les intellectuels, les économistes, qui se demandent mais comment se fait-il que l'on soit dans une telle situation. Certes, la dévaluation du dinar a provoquer une hausse généralisée des prix. Il y a également des suspicions de spéculation, une non-gestion des prix par les autorités gouvernementales. Les députés qui viennent d'être installés à la chambre basse du Parlement ont déjà attiré l'attention des autorités sur la faiblesse du pouvoir d'achat et se sont inquiétés également des traductions que cela pourrait avoir sur le front social qui, pour l'instant, cette rentrée est plutôt calme. Enfin, disons que ceux qui voudraient manifester, ceux du Irak, ne peuvent pas manifester, mais sinon le front social classique, va-t-on dire, lui, il est plutôt calme. Est-ce qu'aujourd'hui, des mesures urgentes ne pourraient pas être prises pour essayer de réagir à cette situation qui est tout à fait préoccupante et qui est aggravée également par toutes les suspicions qui existent concernant le monnaie, le papier monnaie, les dinars, les billets qui seraient imprimés en grande quantité. Cela a pour conséquence d'engager et de faire monter l'inflation et puis également tous les dérèglements économiques qui sont liés à la pandémie de Covid-19. Mais il est un fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable difficulté en Algérie dans la vie de tous les jours pour pouvoir se nourrir à un prix tout à fait convenable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce sera une rencontre importante demain, vendredi. Le président français Emmanuel Macron reçoit le tout nouveau Premier ministre libanais, Najib Mikati. Il s'agit de faire déjà connaissance, se parler, faire le point sur les situations économiques et politiques en cours avec, bien évidemment, le drame de l'après-explosion du port de Beyrouth, ce séisme dans la vie politique, économique, avec cette pandémie de Covid-19 tout à fait importante qui est venue se greffer à cela, avec toutes ces questions relatives à la disponibilité de liquidités, les caisses de l'État qui sont vides, la crise de l'énergie avec l'Iran qui apporte du pétrole en pleine infraction avec le régime des sanctions américaines, aussi le dossier sécuritaire avec un Hezbollah de plus en plus puissant qui part faire le coup de feu en Syrie et puis aussi une armée libanaise qui a été soutenue à de maintes reprises à la fois par la France mais aussi par les États-Unis d'Amérique, d'autres pays arabes aussi ont soutenu le Liban avec des gestes forts, hein, on s'en souvient, le Maroc notamment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur les orientations, les priorités, les urgences qui seront retenues par le ministre libanais, le Premier ministre libanais, qui sera donc reçu par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Après les factions palestiniennes, c'est le mouvement Hamas qui a rejeté officiellement les élections municipales qui sont convoquées par l'autorité palestinienne. Celles-ci devaient se tenir en avril. Alors, elles se tiendront en avril, hein, bien évidemment en Cisjordanie. 387 villages sont concernés, ainsi que 90 autres villes qui pourront ensuite voter à une date ultérieure. Donc, le scrutin sera suivi sur la Cisjordanie. En revanche, sur Gaza, le Hamas a dit non, au même titre que les factions palestiniennes qui s'étaient exprimées quelques jours avant. L'idée générale qui est expliquée par le Hamas est que le mouvement voulait participer, lui, à des élections complètes, simultanées, avec un calendrier qui soit fixe. Et or, l'autorité de Ramallah a décidé, c'était au mois de mai et au mois de juillet, il a décidé d'annuler les premières élections législatives et présidentielles nationales qui devaient être tenues. Donc, suite à cette annulation, qui n'avait pas été appréciée d'ailleurs par le Hamas, eh bien, il y a cette tentative de réorganiser des élections municipales. Mais cette fois-ci, c'est du côté de Gaza que ça coince. Ni le Hamas, ni les factions palestiniennes n'acceptent de participer à ce scrutin municipal palestinien.
Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous.
Nous allons en Syrie pour notre escale, plus précisément au nord-ouest du pays, dans la province d'Idlib, où la Turquie a décidé d'envoyer des troupes, 4000 hommes, plus de 300 véhicules. Alors pourquoi une recrudescence de moyens sur la zone? Eh bien parce que la Turquie, qui aujourd'hui est la puissance garante du groupe HTS qui domine la province de Idlib, eh bien la Turquie craint qu'il y ait une pression militaire exercée par les forces de Damas, soutenues par la Russie. Ceci avant la date du 29 septembre prochain, jour où les présidents Poutine et Erdogan se rencontreront pour parler notamment de ce sujet très litigieux qui est celui de la province d'Idlib. On a noté depuis deux mois maintenant qu'il y a une pression militaire accrue des forces de Damas qui veulent absolument récupérer le contrôle territorial de la province, soutenu par des frappes russes qui sont tout à fait quotidiennes maintenant. maintenant. En réponse à cela, c'est vrai que la Turquie a été très discrète ces derniers temps, mais là, il y a ce mouvement de troupes qui est un message induit, va-t-on dire. C'est une façon de dire, voilà, avec ces 4000 hommes et ce matériel additionnel, nous n'entendons pas céder à la crainte ou à la menace d'une offensive. Sachant que, de part et d'autre, il est clairement dit que personne ne veut d'offensive militaire, personne ne veut engager de combat majeur pour récupérer le contrôle sur la province d'Idlib, qui en plus est aujourd'hui aux mains de groupes armés. Alors certains sont HTS, ils sont en quête de normalisation, d'autres sont quasiment affiliés au groupe Al-Qaïda, à Ouras al-Din. Il y a eu cette frappe de missile américaine cette semaine qui a touché deux membres importants du groupe Ouras al-Din. Donc on est dans une situation telle où personne n'a intérêt à bouger, en tout cas au moins avant que les deux présidents se rencontrent le 29 septembre prochain. A priori, ce sera à Moscou. Donc voilà cette montée en puissance de la Turquie qui est dans une logique où elle cherche le statu quo. Elle ne veut pas d'affrontement, mais aussi elle ne veut pas se retrouver dans une situation où elle serait débordée par les attaques permanentes des forces de Damas qui, comme je le disais à l'instant, ont vraiment aujourd'hui une volonté, c'est de recourir à l'entièreté du contrôle du territoire, ceci dans la perspective d'avoir dans un deuxième temps un retour de la Syrie de Damas sur l'échiquier international, avec en premier lieu un retour au sein de la Ligue arabe. En tout cas, c'est le projet qui est nourri par Damas et son allié russe. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.